Histoire de la Réformation du XVIe siècle. Protestation de Spire et Concorde de Marbourg. 1526 à 1529. 13-2. Frundsberg assemble une armée. Manifeste de l'empereur. Marche sur Rome. Révolte des troupes. Mort de Frundsberg. Le pape et les Romains. L'assaut. Le sac de Rome. Jeu des Allemands. Luther pape. Les Espagnols. Clément capitule. L'empereur recueillit aussitôt les fruits de sa politique. N'ayant plus les mains liées par l'Allemagne, il les tourna contre Rome. La Réformation venait d'être élevée, la papauté allait être abaissée. Les coups portés à son impitoyable ennemi allaient ouvrir à l'œuvre évangélique une carrière toute nouvelle. Ferdinand, retenu par les affaires de Hongrie, chargea de l'expédition d'Italie Frundsberg, ce vieux général qui avait frappé amicalement sur l'épaule de Luther au moment où le réformateur allait se présenter devant la diète de Worms. Frundsberg, qui, dit un contemporain, portait dans son cœur chevaleresque le Saint-Évangile de Dieu, bien fortifié et flanqué d'une forte muraille, engagea les bijoux de sa femme, fit battre la pelle dans toutes les villes de la Haute-Allemagne, et, grâce à l'idée magique d'une guerre contre le pape, vit bientôt de nombreux soldats accourir sous son étendard. Annoncé avait fait dire Charles Quint à son frère que l'armée doit marcher contre les Turcs. Chacun saura de quel Turc il s'agit. Ainsi, le puissant Charles, au lieu de lutter avec le pape contre la Réforme, comme il l'avait dit à Séville, va lutter avec la Réforme contre le pape. Il a suffi de quelques jours pour opérer cet étrange revirement. Il y en a peu dans l'histoire où la main de Dieu soit plus évidente. Aussitôt, Charles prend toutes les allures d'un réformateur. Le 17 septembre, il adresse au pape un manifeste dans lequel il lui reproche de se comporter non comme le père commun de tous les fidèles, mais comme un homme insolent et superbe, et lui témoigne son étonnement de ce que, vicaire du Christ, il ose répandre le sang pour acquérir des possessions terrestres. Ce qui, ajoute-t-il, est tout à fait contraire à la doctrine évangélique. Luther n'eut pas mieux parlé. Que votre sainteté, continuait Charles Quint, rengaine dans son fourreau le glaive de Saint-Pierre et convoque un concile universel. Mais le glaive était du goût du pontife beaucoup plus qu'un concile. La papauté n'est-elle pas, selon les docteurs romains, la source des deux pouvoirs? Ne peut-elle pas destituer les rois et par conséquent les combattre? Le pape maintint donc sa lance tournée contre Charles, et Charles se prépara à lui faire bonne guerre. Alors commença cette terrible campagne, durant laquelle éclata à Rome, sur la papauté, l'orage qui avait dû fondre en Allemagne sur l'Évangile. À la force des coups dont fut frappée la ville des pontifes, on peut juger de la violence de ceux qui eussent brisé les églises de la Réformation. En retraçant tant d'horreurs, on a besoin de se rappeler que les châtiments de la ville aux sept collines ont été prédits par les Écritures de Dieu. Au mois de novembre, Frundsberg, à la tête de 15 000 hommes, se trouvait en Allemagne, au pied des Alpes. Le vieux général, évitant les routes militaires bien gardées par l'ennemi, se jeta dans un sentier étroit, suspendu au-dessus d'affreux précipices, et que quelques coups de bêche eussent rendu impraticable. Défense aux soldats de regarder derrière eux. Néanmoins, les têtes tournent, les pieds glissent, et chevaux et lansquenets tombent de temps en temps au fond de l'abîme. Dans les passages les plus difficiles, les soldats dont la marche est la plus sûre abaissent à droite et à gauche de leurs vieux chefs leurs longues piques en guise de barrière. Effresberg avance, s'attachant au lansquenet de devant, et poussé par celui de derrière. En 3 jours, les Alpes furent franchies, et le 19 novembre, l'armée se trouva sur le territoire de Brescia. Le connétable de Bourbon, qui depuis la mort de Pesquer commandait en chef l'armée impériale, venait de s'emparer du duché de Milan. L'empereur, le lui ayant promis pour récompense, il dut y rester quelque temps pour y consolider son pouvoir. Enfin, le 12 février, il joignit avec ses Espagnols l'armée de Frenzberg, impatientée de ses retards. Bourbon avait beaucoup d'hommes et point d'argent. Il se décida à suivre le conseil du duc de Ferrare, cet ennemi implacable des princes de l'Église, et à tirer droit sur Rome. L'armée tout entière reçut cette nouvelle avec un cri de joie. Les Espagnols étaient pleins du désir de venger Charles Quint. Les Allemands, pleins de haine contre le pape. Tous remplis de l'espérance de voir leurs soldes et leurs peines enfin richement payés au moyen des trésors de la chrétienté que Rome accumulait depuis des siècles. Leur cri retentit jusqu'au-delà des Alpes. Chacun en Allemagne crut que l'heure suprême de la papauté était enfin arrivée, et l'on se prépara à contempler sa chute. Les forces de l'empereur triomphent en Italie, écrivait Luther. Le pape est visité de toutes parts. Sa destruction approche, son heure et sa fin sont venues. Quelques avantages remportés par les troupes papales dans le royaume de Naples y firent conclure une trêve, qui devait être ratifiée par le pape et par l'empereur. À cette nouvelle, un affreux tumulte s'éleva dans l'armée du connétable. Les bandes espagnoles se révoltèrent, l'obligèrent à s'enfuir et pillèrent sa tente. Puis, s'approchant des lansquenets, elles se mirent à crier à tue-tête les seuls mots allemands qu'elles eussent appris. « Lance, lance, argent, argent !» Ces mots retentirent dans le cœur des impériaux. Ils s'émurent à leur tour et se mirent à crier aussi de tous leurs poumons. « Lance, lance, argent, argent !» Frenzberg fit battre la pelle et, ayant rangé en cercle autour de lui et de ses principaux capitaines ses soldats exaspérés, il leur demanda tranquillement s'ils les avaient jamais abandonnés. Tout fut inutile. La vieille affection que les lansquenets portaient à leur capitaine semblait éteinte. Une seule corde vibrait encore dans leur cœur. Il leur fallait la solde et la guerre. Aussi, baissant tous leurs lances, ils les tiennent en arrêt comme s'ils voulaient en percer leur chef, et se mettent à crier de nouveau en rugissant. « Lance, lance, argent, argent !» Frenzberg, qu'aucune armée, quelque grande qu'elle fût, n'avait jamais effrayée, Frenzberg, qui avait coutume de dire « beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur », voyant ses lansquenets à la tête desquels il avait vieilli, diriger contre lui leur fer meurtrier, perd la parole et, frappé comme d'un coup de foudre, tombe évanoui sur un tambour. La force du vieux général était pour toujours brisée. Mais la vue de leur capitaine mourant fit sur les lansquenets ce qu'aucun discours n'eût pu faire. Toutes les lances se relevèrent, et les soldats émus se retirèrent, l'œil morne et d'un pas silencieux. 4 jours plus tard, Frenzberg retrouva la parole. « En avant, dit-il au connétable, Dieu lui-même nous fera toucher au but. » en avant, répétèrent les lansquenets. Il n'y avait plus pour Bourbon d'autre alternative. D'ailleurs, ni Clément, ni Charles Quint ne voulaient entendre parler de paix. Frunsberg fut conduit à Ferrare et plus tard à son château de Mindelheim, où il mourut après 18 mois de maladie. Et le 28 avril, Bourbon prit cette grande route de Rome que tant d'armées redoutables venues du nord avaient déjà suivie. Tandis que l'orage descendu des Alpes s'approchait de la ville éternelle, le pape perdait la tête, renvoyait ses troupes et ne conservait que ses gardes du corps. Plus de 30 000 Romains, il est vrai, en état de porter les armes, faisaient parade de bravoure dans les rues de l'antique cité, traînaient de grands sabres après eux, se querellaient et se battaient. Mais ces bourgeois, âpres au gain, se souciaient fort peu de défendre le pape, et désiraient, au contraire, que le magnifique Charles vint s'établir dans Rome, espérant un grand profit de son séjour. Le 5 mai au soir, Bourbon arriva sous les murs de Rome, et il eût donné l'assaut à l'instant même s'il avait eu des échelles. Le 6 au matin, l'armée, couverte par un brouillard qui cachait ses mouvements, se mit en marche, les Espagnols se dirigeant par la montagne vers la porte du Saint-Esprit, les Allemands suivant la route d'en bas. Bourbon, voulant encourager ses soldats, saisit lui-même une échelle, escalada la muraille et leur cria de le suivre. En ce moment, une balle l'atteignit. Il tomba et rendit l'âme une heure après. Ainsi finit ce malheureux, traître à son roi et à sa patrie, et suspect même à ses nouveaux amis. Cette mort, loin d'arrêter l'armée, ne fit que l'exciter. Claude Seydenstucker, tenant à la main sa longue épée, franchit des premiers la muraille. Michel Hartmann le suivit, et ces deux Allemands réformés s'écrièrent que Dieu même marchait devant eux dans la nue. On ouvrit les portes, l'armée s'y précipita. Les faubourgs furent pris, et le pape s'enfuit dans le château Saint-Ange avec 13 cardinaux. Les impériaux, à la tête desquels se trouvait alors le prince d'Orange, lui firent proposer la paix, moyennant 300 000 écus. Mais Clément, qui croyait la Sainte Ligue sur le point de le délivrer, et qui s'imaginait déjà voir dans le lointain ses premiers cavaliers, repoussa toute proposition. Après 4 heures de repos, l'attaque recommença, et 1 heure après le coucher du soleil, l'armée était maîtresse de toute la ville. Elle resta sous les armes et en bon ordre jusqu'à minuit. Les Espagnols sur la Piazza Navona et les Allemands au Campo Fiore. Enfin, n'apercevant aucune démonstration ni de guerre ni de paix, les soldats se débandèrent et coururent au pillage. Alors commença le fameux sac de Rome. La papauté, depuis des siècles, avait mis la chrétienté au pressoir. Prébendes, annuates, jubilés, pèlerinages, grâces ecclésiastiques, elle avait fait argent de tout. Ses troupes avides, qui, depuis bien des mois, ne vivaient que de misère, prétendirent lui faire rendre gorge. Nul ne fut épargné. Les impériaux, pas plus que les ultramontains. Les gibelins, pas plus que les guelfes. Églises, palais, couvents, maisons particulières, basiliques, banques, tombeaux, tout fut pillé, jusqu'à l'anneau d'or que portait encore au doigt le cadavre de Jules II. Les Espagnols se montrèrent les plus habiles. Ils flairaient l'argent et le dépistaient dans les cachettes les plus mystérieuses. Mais les Napolitains étaient plus dissolus et plus violents. On entendait, dit Guicciardini, les cris pitoyables des femmes romaines et des religieuses que les soldats emmenaient par troupes pour assouvir leur brutalité. Les Allemands trouvèrent d'abord un certain plaisir à faire sentir aux papistes le poids de leurs glaives. Mais bientôt, heureux d'avoir enfin à manger et à boire, ils se montrèrent plus débonnaires que leurs alliés. C'était sur les choses que les Romains appelaient saintes que se déchargeait la colère des luthériens. Ils enlevaient les calices, les ciboires, les ostensoirs d'argent et revêtaient d'habits sacerdotaux des valets et des goujats. Le Campo Fiore était changé en une immense salle de jeu. On y apportait des sacs d'écus, des vases d'or, on les mettait sur un coup de dé, et après les avoir perdus, on allait en piller d'autres. Un certain Simon Battista, qui avait prédit le sac de la ville, avait été jeté en prison par le pape. Les Allemands le délivrèrent et le firent boire avec eux. Mais, comme Jérémie, il prophétisait contre eux. « Prenez, pillez, cria-t-il à ses libérateurs, vous rendrez pourtant tout. L'argent des soldats et l'or des prêtres suivront le même chemin. » Rien n'amusait les Allemands comme de se moquer de la cour du pape. Plusieurs prélats, dit Guicciardini, étaient promenés par toute la ville de Rome sur des ânes. Après cette possession, les évêques payaient leur rançon. Mais ils tombaient dans les mains des Espagnols, qu'ils alors faisaient payer une seconde fois. Un jour, un lansquenet, Guillaume de Saint-Ucel, se revêtit des habits du pape et posa sur sa tête la triple couronne. D'autres, se décorant des chapeaux et des longues robes rouges des cardinaux, l'entourèrent. Et tous, se promenant sur des ânes dans les rues de la ville, arrivèrent devant le château Saint-Ange, où Clément VII se tenait caché. Là, les soldats cardinaux mirent pied à terre, et, retroussant de la main le devant de leur robe, ils baisèrent les pieds du prétendu pontife. Celui-ci but à la santé de Clément VII. Les cardinaux à genoux firent de même, et s'écrièrent que, dès 7 heures, ils seraient de pieux papes et de bons cardinaux, qui se garderaient bien d'exciter des guerres comme ceux qui les avaient précédés. Puis, ils se formèrent en conclave, et le pape ayant annoncé à son consistoire que son intention était de remettre sa papauté, aussitôt les mains se levèrent pour l'élection, et tous de s'écrier « Luther, pape, Luther, pape !» Jamais pontife n'avait été proclamé avec un si complet accord. Tels étaient les rires des Allemands. On n'eut pas si bon marché des Espagnols. Clément VII les avait surnommés « maures » et avait publié une indulgence plénière pour quiconque les tuerait. Aussi, rien ne pouvait contenir leur fureur. Ces fidèles catholiques faisaient mourir les prélats au milieu d'horribles tortures destinées à leur arracher leurs trésors. Et ils ne respectaient ni rang, ni sexe, ni âge. Ce ne fut qu'après un sac de 10 jours, un butin de 10 millions d'écus d'or et la mort de 5 à 8 000 victimes que l'ordre et la paix commencèrent un peu à se rétablir. Ainsi, la cité pontificale expirait au milieu d'un pillage long et cruel. Et cette splendeur, dont Rome depuis le commencement du XVIe siècle remplissait le monde, s'éteignait en quelques heures. Rien ne put soustraire au châtiment cette ville superbe, pas même les prières de ses ennemis. « Je ne voudrais pas, s'était écrié Luther, que Rome fût brûlée. Ce serait une chose monstrueuse. » Les craintes de Mélenchon étaient encore plus vives. « Je crains pour les bibliothèques, disait-il. On sait combien les livres sont odieux à Mars. » Malgré ces vœux des réformateurs, la ville de Léon X succomba sous le jugement de Dieu. Clément VII assiégé dans le château Saint-Ange, craignant que l'ennemi ne fît avec des mines sauter sa demeure, capitula enfin. Il renonça à toute alliance contre Charles Quint et s'engagea à demeurer prisonnier jusqu'à ce qu'il eût payé à l'armée 400 000 ducats. Les chrétiens évangéliques contemplèrent avec étonnement ce jugement du Seigneur. Tel est l'empire de Jésus-Christ, dirent-ils, que l'empereur, poursuivant Luther à cause du pape, est contraint de ruiner le pape au lieu de Luther. Toutes choses servent au Seigneur et tournent contre ses adversaires.